Réplique, les combats de Bernanos avec Jacques Julliard et Sébastien Lapacque. J'écris ce livre pour moi et pour vous. Pour vous qui me lisez. Oui, vous, pas un autre. Vous, vous-même. J'ai juré de vous émouvoir, d'amitié ou de colère, qu'importe. Je vous donne un livre vivant. Ainsi commence La grande peur des bien-pensants de Georges Bernanos. Et je dois dire que l'émotion qui m'a saisi dès les premières pages et ne m'a pas quitté pendant toute la lecture de cette biographie fervente d'Édouard Drumont, l'historien de la conquête juive, a été, en dépit de quelques morceaux de bravoure, la colère et certainement pas l'amitié. Mais j'en étais pas quitte avec Bernanos. Quelques années après La grande peur des bien-pensants, j'ai lu Le chemin de la croix des âmes, le recueil d'articles qu'il a écrit entre la débâcle et la libération. Et depuis, je garde ce livre inspiré à portée de main, car il m'éclaire sur ma propre actualité. Quel est donc cet auteur capable de susciter des sentiments aussi contradictoires? Comment peut-on être aussi aveuglément fidèle à Drumont et faire face, avec une telle clairvoyance et une telle rectitude, aux catastrophes du XXe siècle? Comment l'inacceptable voisine-t-il avec l'admirable? Et comment pouvons-nous, nous qui le lisons, concilier l'amitié et la colère, la fulmination et la gratitude? Ces questions me tourmentent depuis longtemps, et à l'occasion de la parution dans la belle collection Bouquins des principaux écrits de combat de Bernanos, j'ai invité, je ne dirais pas deux spécialistes, mais deux grands lecteurs, Jacques Julliard et Sébastien Lapacque. Et je voudrais commencer par l'émotion, justement. Quel écho le Bernanos batailleur éveille-t-il en vous, Jacques Julliard?
Écoutez, ce qui frappe tout lecteur de Bernanos dès qu'il ouvre un livre, c'est qu'il se sent interpellé. Le texte que vous venez de citer, j'ai juré de vous émouvoir d'amitié ou de colère, je vous donne un livre vivant, mais c'est à vous que je le donne. Et donc, on peut pas aborder Bernanos comme on aborde, je dirais, un auteur classique. Il nous change totalement de la littérature qui a cours aussi à la même époque, celle de Gide, de Valéry, même de... d'une certaine manière plus tard Camus, même si Camus est d'un certain côté avec Bernanos, il n'empêche que cette espèce de véhémence dans le ton, cette manière de vous adresser à vous, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et lorsque vous lisez le livre, on va en parler, bien entendu, le plus contestable, le plus contesté, le plus scandaleux, à certains égards, même à tous les égards de Bernanos, c'est-à-dire La grande peur des bien-pensants, on est frappé du fait que, bon, une fois le cas Drumont réglé, c'est un livre qui s'insère dans une espèce d'interpellation à vous-même, mais aussi à tout le siècle. De ce point de vue-là, Bernanos est le disciple de Péguy. C'est-à-dire que le seul grand ennemi de Bernanos, c'est le monde moderne. Le monde moderne, ça ne veut pas dire nécessairement l'actualité, ça ne veut pas dire le présent, ça veut dire ce monde qui est le monde artificiel, le monde de la technique, on verra ça à la fin de sa carrière littéraire dans La France contre les robots, mais ce qui est le plus important, c'est que Bernanos est un homme qui s'adresse à vous dans votre totalité. On ne peut pas laisser quelque chose de soi-même quand on lit Bernanos. Et le deuxième, je vais laisser très vite la parole à Sébastien Lapacque, mais le deuxième sentiment que j'ai, moi, personnellement, c'est une certaine angoisse. C'est surtout vrai dans le roman. Moi, je n'ai jamais pu entrer dans Monsieur Wynne ou dans La joie sans... la boule au ventre, en quelque sorte, parce que il y a ce qu'il appelle la sainte agonie en parlant du Christ. Cette sainte agonie, elle est partout présente dans ses livres, et je dirais même qu'elle n'est pas absente des pamphlets. Et elle donne à Bernanos un ton qui, à l'intérieur de la littérature chrétienne, ou si vous préférez, je préférerais dire la littérature christique de cette époque, qui comprend des gens, on sait bien, c'est le grand moment de la littérature christique en France. Peggy vient d'être tué, mais il y a Bernanos, il y a Claudel, naturellement, il y a, à certains égards, Maritain, il y a Simone Veil, c'est une floraison sans précédent, et qui n'aura pas de suite non plus.
Bien. Alors, j'aurais des choses à dire, mais ouais. Je passe tout de suite la parole à Sébastien Lapacq.
Oui, bien sûr, parce que là, Jacques Julliard a à la fois évoqué le fond et la forme de cette émotion, parce qu'on est à la fois ému par la forme et par le fond, et on peut discuter des deux de manière distincte, non pas séparée, mais distincte. Bernanos peint un monde, comme vous l'avez bien dit, où l'angoisse s'est substituée à la foi. C'est pour ça qu'il est très étonnant, parce que vous avez raison de le replacer parmi les écrivains chrétiens de son époque, mais beaucoup ont tendance à parler de la foi. Lui parle de l'angoisse. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'adresse à ceux qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas, puisqu'il parle de l'angoisse. Donc a priori, il parle à tous. Il est dans cette perspective chrétienne ouverte par Pascal, prolongée par Kierkegaard, qui est la perspective chrétienne moderne, hein, qui s'ouvre au XVIIe siècle, avec, du côté de Port-Royal. Et c'est pour ça qu'il peut dialoguer, même si leur dialogue est court, avec Albert Camus, puisqu'il aborde la question de l'angoisse
et même du tragique
et du tragique et de l'absurde, hein, dans Monsieur Wynne. Hein, donc, alors Alain Finkielkraut, vous avez commencé par le début avec La Grande Peur des Bien-Pensants. Moi, j'aime bien que ce volume de bouquins Lafont qui paraît aujourd'hui nous permette de commencer par la fin, parce que je trouve que cette masse considérable d'écrits journalistiques de la période 1938-1948, Bernanos est mort en 1948, le 5 juillet, a été peu lu. Mal lu, pas lu du tout, et grâce à ce volume, y compris un livre qui n'est pas un article, qui est le dernier livre à part entière, à part les dialogues des Carmélites, qui est La France contre les robots, de prêter attention à ces textes de cette période finale.
Voilà, ouais. Très bien. Mais alors, Bernanos, avez-vous dit, Jacques Julliard, nous interpelle.
Oui.
Peggy aussi, d'ailleurs.
Absolument.
Peggy éclaire Bernanos.
Peggy et Claire Bernanos.
Toute cette littérature est une littérature d'interpellation. Regardez Maurice Clavel, qui est un peu le fils spirituel de ces gens-là. Tous ces articles, moi je l'ai connu au Nouvel Obs, eh bien, c'était des articles d'interpellation. C'est à vous qu'il parlait.
Alors, d'ailleurs, Bernanos cite Peggy, il le fait beaucoup aussi dans Le Scandale de la Vérité, le grand petit livre de sa rupture avec Maurras et de sa grande dénonciation aussi des accords de Munich, nous y reviendrons. Il dit de Peggy qu'il répond quand on l'appelle, il répond même à voix basse. Et c'est très beau, cette idée de Peggy qui répond quand on l'appelle. Mais précisément, Bernanos se réclame de Peggy.
Il l'a lu tardivement.
Et il n'a jamais renié Drummond. Il dit de Zola, dans ce livre, que c'est un grand romancier génois, de Dreyfus, que c'est un petit juif sournois, rageur et vaniteux. Et alors, pour décrire la conquête juive, voici ces mots dans la conclusion du livre. Un petit nombre d'étrangers d'une activité convulsive tenue des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société au cadre rompu, appauvris par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs. Et pour les décrire un peu mieux, il dit que ce sont des bons hommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, traînent nonchalamment sur les colonnes de chiffres et les cotes un regard de biche en amour auquel pourtant rien n'échappe. Il dit aussi comme tombés d'une autre planète avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurit sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon. Voilà. Et les maîtres étrangers apportent une mystique nouvelle, admirablement accordée à celle du progrès.
Oui. Donc, non, non, mais vous savez, alors moi, contrairement...
Et ça, il ne l'a jamais renié.
Non, non, mais alors...
Sébastien Raffac.
Enfin, attendez, oui et non. C'est-à-dire que, moi, ça m'a posé problème comme vous. J'ai publié ce livre sur Georges Bernanos, encore une fois, en 1998, et ouais. Il manquait deux choses, et je le savais bien, j'avais pas eu le temps de les travailler, et surtout, c'était un scandale au sens évangélique du mot, c'est un obstacle, cette affaire de la grande peur des bien-pensants et de l'antisémitisme. Moi, j'étais pas comme vous, j'osais même pas le lire. Donc, c'est le dernier livre de Bernanos que j'ai lu, parce que je savais bien qu'il fallait que je le lise un jour, mais j'osais même pas le lire, parce que je savais qu'il y avait un obstacle que j'aurais du mal à franchir. Et je savais qu'il manquait la question approfondie. Je parle un petit peu de l'antisémitisme dans mon premier texte, en expliquant de son contexte précis, mais j'étais pas allé au fond de la question. Et il manquait aussi un autre sujet dans mon livre, c'était cette aventure brésilienne essentielle, parce qu'elle dure 7 ans, c'est tout de même une période importante, ça dure entre 1938 avant Munich à 1945, donc une période décisive dans l'histoire de l'humanité.
Mais alors comment avez-vous franchi l'obstacle? Vous l'avez lu depuis alors?
Oui, c'est alors je me suis rendu compte d'une chose déjà, c'est que cette affaire brésilienne et cette affaire de l'antisémitisme s'élucident dans la même lumière. Parce qu'en fait, Bernanos... alors il y a plusieurs choses. Déjà pour ce qui est de m'aider à lire La Grande Peur des Bien-Pensants, il fallait un spécialiste de Drummond. Il aurait fallu lire Drummond. Moi c'est Grégoire Kaufmann qui est un spécialiste historien de l'antisémitisme de plume, qui a consacré sa thèse à Édouard Drummond, qui a écrit une biographie d'Édouard Drummond parue chez Perrin,
oui.
Qui a lui a lu Drummond et qui m'a dit que le Drummond de Bernanos n'est pas le vrai Drummond. Quand on lit Drummond, c'est bien plus horrible que ça. Et quand il se rapporte au texte cité, il voit que le matériau littéraire de la collection éventuelle de la Libre Parole ou des livres de Drummond est très peu cité. Donc il est déjà fantasmé en 1931 par Georges Bernanos quand il écrit ce livre. Et c'est déjà un texte loin de Drummond. Et d'une certaine manière, ce Drummond, mis en scène par Bernanos, est un anti-Maurras. Il le décrit comme sensible, anti-rationaliste. C'est un paradoxe, peut-être insoutenable, mais il utilise Drummond pour se séparer de Maurras, puisque l'année suivante, il rompt brutalement avec Maurras. Adieu Maurras, à la douce pitié de Dieu, 1932.
Absolument. Écoutez, moi j'ai un rapport personnel à ce livre, à cette grande peur des bien-pensants, parce que il y a de ça pas mal d'années, on m'avait demandé de faire une préface à La Grande Peur des Bien-Pensants, que je n'avais pas lu à l'époque. Je lis ce livre, j'en dis non, je ne peux pas faire la préface de cela. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire la préface d'un livre avec lequel je consonnais beaucoup plus, qui était un livre de l'après-guerre, qui est La France contre les robots, un livre magnifique et prophétique à bien des égards. Alors, cela étant dit, puisqu'on parle de l'antisémitisme de Bernanos, il faut en parler. On peut tout défendre. Et moi, je crois que même le texte que vous avez cité, Alain, n'est pas un texte qui conduit au pogrom. C'est des textes, comment dire, culturellement anti-juifs. Je ne crois pas que...
Et viscéralement aussi, quand même.
Ah oui, oui, bien sûr, viscéralement. C'est d'ailleurs ça dont il n'a jamais pu, je crois, se défaire complètement. Mais il n'empêche que ce sont des textes qui interprètent le judaïsme à l'intérieur de la société occidentale. Ce sont pas des textes de haine contre les juifs. Ce sont des textes qui partent d'un certain état de la France antisémite de l'époque. Vous savez bien que on pourrait citer, je les ai pas apportés, mais des textes de Jaurès ou de Clémenceau qui nous feront aujourd'hui dresser les cheveux sur la tête.
Sauf que Jaurès est devenu Dreyfusard quand même. Chez Jaurès, c'est des textes antérieurs.
Et Bernanos, lui, est devenu sioniste. Alain, Bernanos est devenu sioniste. Alors, vous connaissez ce texte, hein, l'honneur est
sinon. Jaurès dit à propos des pogroms antisémites d'Alger de 1899, il dit l'antisémitisme, c'est pas le socialisme, mais ça y mène. Voilà ce que dit en substance Jaurès.
Non, mais c'est vrai que quand on remet tout ça dans le contexte, effectivement, des années 30.
Cela dit,
par rapport à Céline, il est sur un mode mineur.
Bien sûr.
Oui, d'accord.
Alors, cela dit, moi, je ne veux pas minimiser le problème. Je crois que il y a un fond pas raciste, mais racial, qui fait partie d'ailleurs du génie poétique de Bernanos, mais qui l'amène à un moment donné à cette phrase inouïe que vous n'avez encore pas citée, mais que tout le monde connaît quand il dit que Hitler a
Déshonorer
l'antisémitisme. Je voudrais quand même qu'on parle de ce qui se passe entre les deux au Brésil. Parce que c'est quand même très... Attendez qu'on n'arrive pas à la fin.
Cette phrase, c'est attendez, je la resitue. Elle est extraite d'un article du chemin de la Croix des Âmes, donc écrit au Brésil, à la fin de la guerre.
C'est des textes de combat.
Il est au courant, partiellement, comme tout le monde, des persécutions et de l'extermination des Juifs. Il n'en reste pas moins, dit-il, qu'il y a une question juive.
Voilà.
Il y a une question juive. Il faut pouvoir la traiter. On me traite d'antisémite. Je refuse ce mot. Ouais. Hitler l'a déshonoré.
Mais c'est ce qu'on peut... qui nous paraît aujourd'hui inouï. Même le pire antisémite aujourd'hui n'oserait pas dire une chose pareille. Et c'est que il faut bien reconnaître que, à l'intérieur de son évolution interne, Bernanos a changé quant à l'attitude à avoir vis-à-vis du problème juif.
Mais est-ce qu'on peut dire
il y a toujours un problème des juifs. Il y a toujours un problème de la race juive. Mais il dit que à partir du moment où Hitler pratique l'antisémitisme comme il le pratique, l'extermination, tout a changé.
Non, mais je crois qu'il y a même quelque chose de plus important qui claire quand même. J'ai essayé de le montrer dans le livre que j'ai consacré au séjour de Bernanos au Brésil. Il y a quand même cette rencontre avec l'existence juive au cours de sa période brésilienne, à la fois avec des juifs religieux. C'est le cas de Hugo Simon, qui est un ministre de la République allemande avant la République de Weimar dans les années 20 à Berlin, à la fois avec Stefan Zweig, qui est venu lui rendre visite à la Croix des Âmes dans sa petite ferme de Barbacena avant son suicide le 22 février 1942, à la fois avec le confesseur de Georges Bernanos, qui était un juif berlinois, juif libéral, qui s'était converti au christianisme, un bénédictin qui était au monastère allemand de Beuron, qui avait été par son ordre d'abord exfiltré vers Monte Cassino en Italie et de l'Italie vers le monastère San Bento de Rio de Janeiro. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs frères d'origine juive et les juifs qui fuyaient vers le Brésil utilisaient le réseau bénédictin pour faire passer leur argent. Donc Bernanos est rentré en communauté avec ce monde juif du Brésil d'exilés à travers ses amis moines du monastère de San Bento. C'est comme ça qu'il s'est rapproché de Stefan Zweig. Et là, il a rencontré ces juifs à la fois religieux et pas religieux de toute tendance. Il parle aussi de Georges Torres, vous savez, qui était le beau-fils de Léon Blum, et qui se battait et qui lui a dit dans sa ferme de la Croix des Âmes, je vais leur montrer comme un juif sait se battre, et se battre pour la France et pour la liberté. Et Bernanos dit, j'étais très touché par ce mot. Et Bernanos, je crois, a quelque chose, moi ça me fait vraiment penser à Pascal, quand Pascal dit, la rencontre de ce peuple m'étonne et je la crois digne d'attention. Et je crois que c'est ça ce que Bernanos comprend dans sa période brésilienne, et c'est ça qui l'éloigne plus que ce que dit Hitler, c'est sa rencontre avec l'existence juive, avec l'errance juive. Et là j'en viens, pardon, à ce que dit Jean-Claude Milner, où il dit, il avait mis à travers le prêtre en scène des personnages de paria, et pour avoir pensé le paria à travers ses prêtres, le prêtre, le curé de Fenouille dans Monsieur Wynne est le paria absolu, le côté paria des juifs brésiliens des juifs qu'il voit au Brésil, certains sont devenus brésiliens. Et vous savez, dans la maison de Stefan Zweig aujourd'hui, il y a quelque chose de très beau, la maison où il s'est suicidé à Petropolis, il y a un mur des exilés, et vous avez 90% de non-juifs, et parmi ces juifs, il y a aussi des communistes européens non-juifs, allemands, roumains, et il y a Georges Bernanos, et tout d'un coup, vous avez son nom sur le mur de la maison de Stefan Zweig parmi ces exilés parmi ces parias juifs. Donc Bernanos, je pense, en faisant une réflexion profonde et spirituelle sur la notion de paria, c'est comme ça qu'il a dépassé cet antisémitisme, et c'est ainsi que j'ai gravi cet obstacle.
Je crois que ce que vous dites là est important. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est l'attitude générale de cette littérature, appelons-la catholique, moi j'ai dit christique tout à l'heure, à l'égard du problème juif. Il y a toujours, chez les chrétiens de l'époque, une double attitude. Celle qui consiste à dire que les juifs sont ceux qui ont crucifié Jésus, et en même temps, l'autre attitude qui consiste à dire que les juifs sont nos pères dans la foi. Et il y a toujours cette opposition, ce conflit entre
cette dialectique.
Mais en fait, vous savez,
le paradoxe, c'est que l'antisémitisme de Bernanos n'est pas tellement un antijudaïsme chrétien, c'est vraiment le socialisme des imbéciles.
Comme dit Moïse Poston,
une sous-critique du capitalisme.
Mais il y a quand même, prenons un autre cas, donne quelqu'un qu'on n'a encore pas cité et qui est pourtant une des sources de ces gens-là, y compris de Péguy, c'est Blois, Léon Blois.
Oui.
Or, Léon Blois, à certains égards, peut paraître comme raciste au sens moderne
temps,
du terme,
et il écrit
le salut par les Juifs.
Oui, absolument.
Le seul chimiquement pur de toute tentation antisémite, c'est Péguy.
Et Bernanos l'a lu tardivement. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on parle de la relation Péguy-Bernanos, c'est important de dire que Bernanos n'a lu vraiment Péguy qu'en 1938. Il avait donc 50 ans, au Brésil. Et c'est Péguy qui explique Scandale de la vérité et Nous autres Français.
Vous avez raison. Et néanmoins, il y a l'exemple de Péguy. Il y a le cas Péguy qui existe très
enfin, présent. En même temps, le dépassement de l'antisémitisme doit beaucoup à la lecture de notre jeunesse, puisque vous savez qu'il y a des
pages. Alors, justement,
j'ai encore un cas. Il faut que je vais aller jusqu'au bout. Il y a le cas Claudel. Claudel qui est incontestablement antisémite dans sa jeunesse. Il y a des textes incontestables comme ceux de, comme ceux qu'on peut citer de Bernanos dans La Grande Peur et qui, sous le coup de l'antisémitisme hitlérien, devient prosémite, il n'y a pas de d'écrit plus
et sioniste
plus,
lui aussi.
Plus émouvant que le journal de Claudel et s'y reproche très vif, lui qui est tellement conformiste vis-à-vis de la hiérarchie catholique contre Pie XII. Il fait proposer par Maritain à Pie XII de faire une journée de pardon à l'égard des Juifs à la libération, chose que Pie XII écarte.
Alors, on va pas en rester à cette seule question. Et il fallait quand même la traiter longuement comme elle le méritait. Mais justement, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu au Scandale de la vérité. Puisque, à l'occasion de Munich, et pour expliquer aussi sa rupture avec Maurras, Péguy relit notre jeunesse. Et sans jamais renier Drummond, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, mais alors,
il renie pas Drummond, il lit notre jeunesse.
Mais vous savez, c'est comme aujourd'hui des gens, par exemple, qui vous disent de votre génération qu'ils sont toujours fidèles à Jean-Paul Sartre, et le Jean-Paul Sartre auquel ils sont fidèles n'a plus rien à voir avec le véritable Jean-Paul Sartre. Donc on peut toujours vider. Moi, vous savez, je connais des gens aussi de votre génération qui admirent toujours Mao Tse-Toun. Je vous promets que le Mao Tse-Toun qu'ils admirent n'a rien à voir avec le Mao Tse-Toun historique.
Cela étant, ils ont tort.
On a des noms
en tête, ils ont tort. Mais je voudrais justement.
On peut vider aussi de sa substance une admiration de jeunesse, ça a
bien
toujours
sûr,
existé.
Bien sûr, mais ce que je trouve très beau dans ce texte et dans un certain nombre d'articles qui suivront, c'est la longue méditation de Bernanos sur Munich.
Oui.
Munich, pour lui, c'est un des grands événements du 20e siècle. C'est Munich qui explique la catastrophe qui a suivi la trahison par réalisme pour un cas de force majeure, quoi. Grande critique du réalisme politique, donc de Maurras, politique d'abord, avant la politique, il y a l'honneur, ou en tout cas, il y a une politique de l'honneur. D'où la référence à la vocation surnaturelle de la France, affirmée par Péguy dans notre jeunesse. Et je trouve que cette insistance sur Munich est absolument passionnante, parce qu'on réduit un peu l'histoire du XXe siècle à l'affrontement de la démocratie et des totalitarismes, alors que on en vient à chercher le fascisme français, alors que Munich, c'est autre chose. C'est un effondrement des démocraties elles-mêmes qui affirme le primat de l'individu, mais l'individu, survivre à n'importe quel prix, il sacrifie son honneur à son intérêt immédiat, ça donne Munich.
Oui, mais il faut parler simplement de la guerre d'Espagne, parce que finalement, le grand révélateur, c'est avant, vous avez parlé, Jacques Julliard, de Maritain. On pourrait citer Mauriac, qu'on n'a pas cité.
Oui.
Et malheureusement, Claudel, lui, s'est trompé dans cette affaire. Il était du côté de Maurras.
Complètement.
Mais en fait, le véritable, Alain Finkielkraut, le véritable moment de vérité, c'est la guerre d'Espagne.
Bien
puisque
entendu.
Bernanos pense que la guerre d'Espagne, et d'ailleurs, vous nous parlerez sans doute de Simone Veil, on peut parler de George Orwell, Bernanos considère que la guerre d'Espagne est une répétition générale de ce qui va advenir. Donc pourquoi il est lucide sur Munich? Non pas qu'il soit extra-lucide, c'est qu'il a réfléchi sur ce qui s'était passé en Espagne, et comme l'avait dit le lieutenant-colonel Morel, qui était l'attaché militaire d'Action française à Madrid, à Léon Blum, qui l'avait reçu, un roi de France ferait la guerre contre les putschistes en Espagne et du côté des républicains. Et effectivement, Bernanos avait réfléchi, et Munich, c'était juste l'acte 2 de cette affaire.
Vous avez, à juste titre, parlé à propos de Munich. On aurait pu déjà le dire, comme vient de le rappeler Sébastien Lafargue, à propos de la guerre d'Espagne, de politique de l'honneur. Hein, l'expression, elle figure dans, notamment dans Nous autres Français. Il dit, nous avons fait ce rêve de mettre l'honneur à la portée de tout le monde. Oui. Il faut donc que nous le mettions aussi à la portée des gouvernements. Nous savons qu'il y a un honneur de la politique. Nous savons non moins fermement qu'il y a une politique de l'honneur et que cette politique vaut politiquement mieux que l'autre. Ça, c'est tout la politique de Bernanos. Autrement dit, ne cherchez pas une gauche et une droite chez Bernanos. Ou plutôt, vous trouverez les deux. Parce que rien de ce qui était français, pour employer une formule maurassienne, ne lui était étranger. Mais il est vrai que son critère essentiel, c'est pas la gauche et la droite, c'est le rapport entre le réalisme, les petites tentes réalistes du maurassisme, comme il dit, et entre le réalisme et la politique de l'honneur. Mais cette politique, elle vaut mieux que l'autre, parce que c'est la seule qui est fidèle au génie de la nation. Elle est fidèle à l'efficacité de la nation.
Parce qu'en fait, le réalisme, lui dit que le réalisme est catastrophique. Alors, vous avez fait une toute petite erreur que je me permets de souligner, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dit tout ce qui est français et nôtre, comme aurait dit Maurras, mais la formule qui était sur le journal Action Française, et tout ce qui est national et nôtre. Et c'est tout à fait ce qui sépare Bernanos de Maurras. Parce que le national, on est déjà dans une idée. Alors que le français, on est dans le charnel et dans le concret. Alors que le national, il suffit de rajouter le mot isme, et
on est dans
ce que Bernanos n'aime pas.
C'est une patrie charnelle, en même temps, il parle encore comme Peggy de la vocation surnaturelle de la France. Voilà, mais c'est très intéressant d'assister comme ça à ce surgissement de l'honneur. Un thème qui est d'ailleurs repris par De Gaulle, ce qui explique
l'admiration. Mais c'est l'honneur dans l'affaire Dreyfus d'ailleurs, il imite, c'est pas l'imitation de Jésus-Christ, c'est l'imitation de Charles Péguy sur la question de l'honneur pendant l'affaire Dreyfus.
Voilà, exactement.
Vous rappelez comment était annoncé De Gaulle à Radio Londres, honneur et patrie, voici le général De Gaulle.
Voilà, exactement. Mais l'honneur, c'est inattendu, parce que les démocraties croyaient s'être débarrassées de cet archaïsme. L'individualisme démocratique se passait de l'honneur, et elles en retrouvent l'exigence à leur corps défendant, par opposition, justement, à la capitulation qui commence à Munich. Et qu'est-ce que l'honneur ? Là, j'en reviens à ce que vous dites l'un et l'autre, c'est la filiation. L'honneur, absolument. C'est la filiation. Et
c'est être fidèle à ce qu'on a reçu. Ce sang comme je l'ai reçu, comme Péguy le répète souvent.
Plus nous avons de passé derrière nous, plus justement, il nous faut le défendre ainsi, le garder pur, c'est Péguy dans notre jeunesse.
Je crois que l'affaire Dreyfus racontée par Péguy, ça a dû bien ébranler Bernanos quand même sur son antisémitisme de jeunesse, parce que il a bien compris que cette affaire d'honneur à l'égard du pauvre Dreyfus était quand même... vous savez ce que disait Lévinas de ce pays où les gens sont capables de s'entretuer pour un petit capitaine juif, c'est extraordinaire. Bernanos a dû se dire, c'est un moment tellement français que les gens se soulèvent pour...
Voilà. Et c'est aussi de ce fait que dans un texte admirable intitulé « Dans l'honneur et la dignité », Jean Kelevitch, donc il dit cela, il le prononce, c'est une conférence je crois, au sortir de la guerre, eh bien, Jean Kelevitch cite lui-même Bernanos en rappelant que le fond de l'ignominie a été atteint en 1938 sur ces Champs-Élysées cagoulards où les belles dames acclamaient l'affreux triomphe de Daladier, toujours la même chose, et glapissaient les communistes sac à dos, les juifs à Jérusalem. Georges Bernanos a fustigé toute cette racaille en des pages inoubliables qui ne sont pas simples littérature. Ils ne sont pas simples lectures, c'est toujours Bernanos.
Il a frappé beaucoup de gens qui n'étaient pas de sa tradition et de son préjugé. Et par contre, il a eu le don quand même d'exaspérer particulièrement les gens de droite et d'Action française et d'extrême droite. Il faut se souvenir des pages de rebatté dans les décombres contre Bernanos. Il le traite de lugubre pochard. Et alors, j'ai remarqué, en regardant la collection de l'Action française de 1940 à 1944, où j'ai vu des choses assez terrifiantes que je ne rappellerai pas ici, mais que Bernanos est sans cesse associé dans les attaques à Mauriac et Maritain.
Oui.
C'est pour eux, pour les collaborateurs et pour l'Action française, ça forme un trio. Alors Jacques Jullard, c'est une chose, je pense que vous avez dû remarquer, Mauriac et lui. Alors Bernanos était dans l'imitation de Charles Péguy, c'est évident dans Scandale de la vérité, mais Mauriac dans son bloc-notes était souvent dans l'imitation de Georges Bernanos et il disait Bernanos est mort, il n'y a plus que moi pour colérer le peuple. Quand il proteste contre la torture au Maroc et en Algérie, il est dans l'imitation de Georges Bernanos parce que le Mauriac de 1935 n'aurait peut-être pas eu ce courage.
Non. Alors, ça me permet de faire remarquer une chose. J'ai parlé tout à l'heure de cette filiation extraordinaire d'écrivains chrétiens au moment où la France se déchristianise. C'est tout de même quelque chose à méditer. Et qu'est-ce qui est la caractéristique de ces écrivains chrétiens ou christiques, entre guillemets? C'est le style, ou plus précisément, ce que Gilles Philippe, dans son introduction, qui est excellente aux écrits romanesques de Bernanos dans la Pléiade, Gilles Philippe, oui, je m'en rappelle plus l'expression qu'il emploie, mais c'est
Pierre.
Oui, c'est le ton. Beaucoup plus que le style. Et lorsque vous prenez cette filiation qui commence avec Léon Blois, mais qui comprend des écrivains comme Barbet, comme Villiers-de-l'Isle-Adam, etc., qui passe ensuite par Péguy, Bernanos, Simone Veil, jusqu'à Maurice Clavel, ce sont des gens qui sont inséparables de leur ton. Si vous les séparez du ton qu'ils emploient, vous perdez l'essentiel de leur message.
Parce qu'en fait, c'est des orateurs. On dit souvent, quand vous lisez Monsieur, nous en rendons très bien compte, il y a en France des écrivains du style et des écrivains de la voix. Et de toute évidence, Bernanos est un écrivain de la voix.
Oui, on peut dire en même temps quel style. Mais vous avez raison. Vous avez raison de faire cette distinction. Alors, je voudrais dire un dernier mot sur les grands cimetières sous la lune et puis en venir très vite à un texte que vous avez commenté tous les deux, ce petit livre d'après-guerre, La France contre les robots. Oui, parce que Simone Veil a envoyé une lettre à Bernanos. C'est tout à fait étrange. Simone Veil, femme de gauche et d'extrême gauche, dénonce les crimes commis en Espagne par ce qui aurait pu être son camp. De même, c'est ce que fait Bernanos en voyant les assassinats qui se sont produits à Palma de Majorque.
C'est ça que l'Action française ne lui a jamais pardonné.
Voilà. Voilà, exactement. Et alors Simone Veil a cette phrase très belle dans une lettre dont j'apprends que Bernanos l'a toujours gardée sur lui.
Oui.
Et il dit ceci, elle dit ceci, j'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. Ou du moins, on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Voilà. Si par hasard on éprouve un peu de dégoût, on le tait et bientôt on l'étouffe, de peur de paraître manqué de virilité. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire.
Parce que, en fait, j'ai lu ça dans mon adolescence, les grands cimetières sous la lune, et je me suis rendu compte des années plus tard qu'il faudrait lire les grands. Je l'ai relu à plusieurs reprises, mais qu'il faudrait relire les grands cimetières sous la lune en utilisant la grille de lecture de René Girard sur le refus de la rivalité mimétique, c'est-à-dire il y a une montée aux extrêmes de la violence. Puis si vous rendez les coups, et Bernanos le refuse en disant nous ne ferons pas les mêmes crimes que les rouges au nom de l'Évangile, et Simone Veil, c'est exactement ce qu'elle dit, parce qu'il y a un thème très puissant chez Bernanos. Bernanos, sur les phénomènes de foule, c'est la peur. La peur, c'est très présent. Et pourquoi son livre? C'est pour ça qu'il y a la thématique antisémite que vous avez signée, vous avez raison, mais il y a des thématiques très fortes et très puissantes. La peur. C'est la peur qui pousse au crime. Et sans cesse, ce sont les lâches qui poussent au crime. Et pour Bernanos voit la lâcheté de Munich et la lâcheté des femmes tondues en 1945, parce qu'on pourrait y arriver pendant l'épuration. Pour lui, c'est la même lâcheté, c'est toujours la foule.
Ces gens-là. Enfin, Bernanos.
Oui, pas la lâcheté des femmes tondues, pardon.
Comme
vous aviez compris, c'était la lâcheté de ceux qui les tondent.
Il est pour le peuple et il est contre la foule. C'est vrai que la foule, c'est ce sentiment de peur, d'angoisse.
Dialogue des Carmélites est un texte très beau sur la violence de la foule.
C'est le grand sentiment qui domine l'œuvre de Bernanos. C'est l'angoisse.
Oui.
L'angoisse de, encore une fois, l'angoisse devant la mort. depuis son enfance, il avait peur de mourir.
Il le dit d'ailleurs. Il dit à la fois, c'est 24 heures de doute et une minute d'espérance.
Oui. Peut-être même une seconde, je crois.
Et il y a toujours cette méditation sur ce qu'il appelle la sainte agonie.
Et alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ça a été décrit par son confesseur Daniel Pézeril, que vous avez peut-être sans doute connu, Jacques Julliard.
Oui, que j'ai connu, oui.
Et qui, il a décrit son agonie. Il a eu une mort assez paisible. Et il avait cette idée qu'en fait, nous ne mourrons pas les uns pour les... nous ne mourrons pas chacun à sa place, nous mourrons les uns pour les autres, et les uns par les autres. C'est-à-dire que, c'est le dogme de la communion des saints, évidemment, c'est-à-dire que celui qui est angoissé par la mort peut bénéficier à son heure dernière de l'héroïsme le plus pur.
Absolument.
C'est d'une autre personne. C'est l'histoire
et à l'inverse, Chevance, le confesseur des morts,
agonie atroce.
Il est dur de mourir, ma fille, dit-il.
Comme souvent les saints.
La plupart des saints.
Ma sainte Thérèse de Lisieux a eu une mort difficile. Saint Jean de la Croix.
Des agonies absolument terribles. C'est pas une religion paisible.
Le Christ lui-même sur la croix n'a pas une mort facile.
Une mort angoissée. Et Peggy, le psaume, a des phrases très belles.
Il cite le psaume 21.
Dieu même a craint la mort.
C'est pour ça que je dis qu'ils sont christiques avant d'être chrétiens.
Alors, bon, maintenant venons-en à la France contre les robots.
Oui.
Ce livre paraît
au Brésil.
Il est écrit au Brésil. Il est paru en 46.
Et republié beaucoup plus tard.
Voilà, en France, mais quand même.
Alors, je peux vous en faire l'histoire.
Attendez.
Il a eu une histoire assez compliquée parce que Bernanos n'avait pas eu cette idée de robot, si je puis me dire. Ce mot n'était pas encore à la mode et donc c'est un de ses amis brésiliens qui lui a soufflé. Il a paru avec une croix de Lorraine par le comité de la France libre de Rio. Bernanos l'avait laissé derrière lui en rentrant en juin 1945 en France. Il a été publié d'abord au Brésil en 1946. Le général de Bénouville, qui avait une collection chez Robert Laffont, donc il était compagnon de la Libération, gaulliste et lui-même ancien camelot du roi, donc lui-même revenu de Maurras, comme Bernanos l'a fait publier chez Robert Laffont. Et il a paru en 47 dans un silence assourdissant.
Mais justement, alors, ce silence, je voudrais en parler, parce que quand même, les démocraties viennent de vaincre le nazisme, la guerre froide.
Et les Japonais avec une bombe atomique.
Oui, la guerre froide.
Vous avez raison. Bombes atomiques.
Voilà bien. La guerre froide se prépare avec l'autre totalitarisme. Et voici un livre qui nous explique, au sortir d'une guerre où Bernanos s'est engagé comme on sait, nous explique quand même que tous les régimes politiques sont différentes figures, différents avatars d'une même et unique civilisation des machines. Aujourd'hui aussi, ça peut provoquer un certain malaise, mais je comprends qu'à l'époque, un tel réquisitoire ait pu être incompris.
D'ailleurs, Emmanuel Mounier l'a attaqué dans l'esprit.
J'allais en parler. J'ai été proche de Mounier et d'esprit avant de vraiment d'entrer dans Bernanos, parce que c'est pas tout à fait le même monde. Et j'avais été complètement convaincu par Mounier, et dont les arguments restent tout à fait sérieux, en disant que c'est très bien de critiquer la société, la civilisation des machines, mais le machinisme est quelque chose de bon s'il est utilisé dans une certaine perspective politique, et que il craignait bien que Bernanos sombre dans un certain passéisme en quelque sorte.
Non, mais même c'est pas passéisme, c'est vraiment technophobie. Il dit pas le mot technophobie. Il n'utilise pas le mot technophobie, mais il utilise.
Et presque tous les gens qui en ont parlé à l'époque en ont parlé dans ces termes.
Mais il parle en termes de peur, parce qu'il parle, vous vous souvenez, petite peur du XXe siècle.
Oui.
C'est pas tellement le passé, c'est la peur face à la nouveauté.
Continuez, Jacques Julliard, continuez. Comment avez-vous surmonté justement ce sentiment initial?
C'est-à-dire qu'à l'époque, il ne faut pas l'oublier, on est en plein progressisme.
Voilà.
Pas seulement progressisme politique, mais progressisme technique.
Il n'y a pas que les marxistes, il y a les catholiques qui sont...
Il y a cette espérance dans le fait que les machines, précisément, celles que critique et que condamne Bernanos, sont celles qui libèrent l'homme. On est quand même dans la perspective à la fois des chrétiens de gauche et naturellement des marxistes, que la technique va libérer l'homme de ses servitudes traditionnelles. Et donc, ce livre n'est pas compris, sauf que il faut se rappeler qu'à la même époque, un certain nombre de philosophes font la même démarche.
Un peu plus tard d'ailleurs, un tout petit peu plus tard, Jacques Ellul, dont Bernanos a parlé dans une conférence de la Liberté, Pourquoi faire.
Oui.
Et donc lui-même, vous parliez de Clavel, finalement les deux personnes qui se diront un petit peu les héritiers de Bernanos. Alors Ellul est protestant, mais un certain nombre de thèmes qu'il prend, notamment contre le machinisme, mais même d'une forme, la critique de la bourgeoisie aussi, et la critique du centre du Marais. Et alors l'autre personne qui est étonnamment proche de Bernanos plus tard, c'est Günther Anders, l'obsolescence de l'homme.
Ouais, mais alors Günther Anders, on peut pas dire que ce soit plus tard.
Et
on peut,
ah, je si, pense que plus tard.
Oui, c'est vrai. Le livre a été écrit plus tard, mais la méditation est ancienne. Ah oui. Alors, Günther Anders lui-même est un disciple qui ne paie pas sa dette de Heidegger. S'il ne paie pas sa dette, on peut le comprendre. On peut le comprendre pourquoi, mais effectivement...
J'avais parlé d'Heidegger.
Et Heidegger, c'est évidemment... Et justement, donc, chez Heidegger, la réflexion sur la technique est immense, extrêmement profonde, et en même temps, elle crée ce malaise, puisque au sortir de la guerre, après ce qu'a été son propre engagement, il les met tous dans le même sac. Simplement, en effet, il décrit ce que Bernanos appelle la civilisation des machines comme un gigantesque réseau de relations instrumentales où s'engloutissent le lieu, l'homme et le temps.
Mais Heidegger n'est pas non plus sensible à la thématique augustinienne de la vie intérieure, c'est-à-dire la disparition de l'homme intérieur.
C'est quand même.
Oui, le recueillement.
Si je tenais au mot passéiste, c'est parce que ce que n'ont pas compris un certain nombre de gens, y compris Emmanuel Mounier à l'époque, c'est que le, entre guillemets, passéisme de Bernanos est à bien des égards un futuriste.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire
oui.
que il a peut-être 50 ans
voilà,
de retard, mais il a 30 ans d'avance.
Comme dirait Jean Cocteau à propos du général de Gaulle, il était d'avant-hier et d'après-demain.
Ben voilà.
Et alors moi, je voudrais quand même dire, puisque vous parlez du progressisme de l'Église, j'ai été très frappé parce que j'ai lu les encycliques des papes sur cette question, non pas de la technique, il n'y a pas grand-chose, mais le progrès. Que ça soit Pie XII et Paul VI, ils sont encore très optimistes. Oui. Populorum Progresso, vous savez, c'est une encyclique qui a marqué son époque, juste au moment du Concile. Et moi, j'étais très frappé par l'encyclique du pape François Laudato Si. C'était que c'est pour la première fois que l'Église a une encyclique à caractère social, écologique, avec un regard assez sombre sur l'état du monde actuel, sur la possibilité de l'homme de mal utiliser les outils qu'il a en main, pour en revenir à la thématique de Mounier qui dit « la technique, ce ne sont que des outils ».
Mais, oui.
Mais en fait,
ah oui,
alors que chez Bernanos, il y a l'idée d'un raisonnement, vous
bien
avez
sûr.
Raison, l'idée d'Heidegger d'un raisonnement, et l'idée d'un dépassement.
Je crois qu'il faut distinguer entre la technique au quotidien et la civilisation technique.
Et la civilisation machine.
Parce que la civilisation technique, non seulement elle donne ce que nous savons, mais en plus, elle détruit l'homme de l'intérieur.
Oui, alors justement, là je vais citer quand même quelques phrases. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagore et le dîner à San Francisco, vous vous rendez compte, Paris-Marseille en un quart d'heure, on y arrive quand même. C'est formidable, car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Et cette phrase très connue que vous citez également, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Exactement.
Et il dit aussi ceci... Or, si effronté qu'il soit, aucun apologiste de la machinerie n'osait prétendre que la machinerie moralise. Donc, effectivement, l'optimisme des Lumières, qui pensait que tout avançait en même temps, le progrès technique, les sciences et les arts, la civilité et la morale, cet optimisme est périmé
tout à fait
par la civilisation
voilà,
des machines.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que Bernanos écrit ça avant l'invention du smartphone.
Oui.
Et il suffit de regarder des personnes dans un bus avec leur smartphone pour comprendre que Bernanos ne délirait pas. Mais en 1947, Emmanuel Mounier ne pouvait pas le voir. Et Emmanuel Mounier, mort en 1950, n'a jamais pu tenir un smartphone entre les mains. Mais ce qui est frappant, moi, vous voyez Alain Finkielkraut avec le passage que vous venez de lire, c'est que avec ce livre, La France contre les robots, qui a été peu ou pas lu en 1947, des décennies plus tard, Bernanos se trouve un nouveau public. Moi, je suis frappé de voir un certain nombre de jeunes gens qui ne viennent pas du tout de milieux catholiques ou royalistes, qui pourraient être ceux de Bernanos, et qui viennent plutôt de milieux anarchistes, ludites, comme on dit, c'est-à-dire critiques de la machine, qui, dans leurs livres, dans leurs blogs, citent volontiers ce Bernanos de La France contre les robots qui, tout d'un coup, brille d'une lumière neuve. Ce texte qui paraissait fou un petit peu à ceux qui l'ont lu. Alors moi, j'aimerais bien travaillé un peu plus, je n'ai trouvé que cette réaction de Mounier, mais j'ai l'impression que ce texte a été totalement incompris. Personne, alors, à part Mounier, n'en parle.
Il y a plusieurs choses. D'abord, l'ensemble de la presse catholique.
Il y a une critique dans Témoignages chrétiens aussi, négative.
Il y a une critique dans Témoignages chrétiens, mais dans La Croix aussi, je crois. Dans la plupart des journaux catholiques, c'est le refus. C'est le refus de cette position qui est, alors là, considérée comme complètement...
Et dans le Figaro littéraire, il y a un article positif d'André Rousseau.
Peut-être bien, oui.
Alors,
la droite et la gauche sont d'accord pour condamner cette
parce
position.
Parce qu'elles sont progressistes.
Mais encore une fois, Bernanos n'est certainement pas un présentiste.
Et puis il y a le marxisme aussi, parce qu'on a parlé de l'antifasciste de Bernanos. Mais... Ouais.
C'est un homme qui allie une certaine fascination pour le Moyen-Âge avec une vision complètement prophétique de l'avenir. Et le point commun, c'est, alors là, une notion très Mounier, c'est celle de la personne. Ce qu'il défend à travers des situations différentes, des époques différentes, c'est une certaine idée de la personne.
Et alors, il faudrait dire quand même, avec cette affaire de rapport à la technique assez enfantin, c'est un peu comme Antoine de Saint-Exupéry dans son avion. Lui, il est sur sa moto, des fameuses photos l'ont montré.
Ah oui.
Donc il a tout de même un rapport enfantin à la technique. Et il y a une page dans
le
journal d'un curé de campagne, il y a une page extraordinaire où le curé monte à l'arrière d'une moto et passe un des plus grands moments de sa vie, un moment de grâce.
Avec donc, ce jeune homme qui l'obsède.
Donc là-dessus, il est un peu comme Saint-Exupéry dans son avion, qui lui-même...
Absolument.
Alors, un mot sur l'avion, justement, parce que l'une des figures, pour lui, de la civilisation des machines, et là, ça nous ramène aussi à la guerre, c'est l'aviateur bombardier. Il dit, l'aviateur bombardier, ça change la nature même du mal, parce que le brave type qui vient de réduire en cendres une ville endormie se sent parfaitement le droit de présider le repas de famille entre sa femme et ses enfants, comme un ouvrier tranquille, sa journée faite. Rien ne distingue ce tueur du premier passant venu, et ce passant lui-même, jusqu'ici doux comme un agneau, n'attend qu'une consigne pour être tueur à son tour, et devenant tueur, il ne cessera pas d'être un agneau.
Alors ça nous fait penser à Howard Zinn et à nouveau à Gunther Anders, qui pense beaucoup à cette affaire à Hiroshima.
Mais alors ça me fait penser aussi à un penseur tout à fait oublié, le théologien Max Picard, que cite parfois Lévinas. Il a écrit sur les nazis et sur Hitler un livre absolument magnifique qui s'appelle « L'homme du néant ». Et il dit ceci, que dans la cruauté nazie, ce qu'elle a de terrifiant, c'est qu'elle n'est plus à l'échelle de l'homme. Et elle est à l'échelle de l'appareil. La cruauté nazie émane d'un appareil industriel ou d'un homme devenu tout entier appareil. Et il a cette phrase incroyable. « Dans le cas des atrocités nazies, l'homme a réalisé plus de mal qu'il n'y en a dans l'homme à l'état de disposition.
Parce que Bernanos, il insiste beaucoup sur le fait
qu'il n'a pas rejoint le mal qui est en lui, il l'a dépassé.
Parce que Bernanos,
c'est un peu ça, la civilisation des machines.
Parce que Bernanos insiste aussi beaucoup sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale, que les gens n'étaient même pas dégoûtés par leurs crimes. Alors là, on en revient quand même au procès effectivement des chefs nazis. Ils n'ont jamais semblé dégoûtés par le bain. Alors qu'ils disaient que les compagnons de Pizarro étaient forcément dégoûtés par le nombre de gens qu'ils avaient passés au fil de l'épée dans une journée.
Et en plus, ils en passaient
moins. Et qu'ils les hantaient dans leur cauchemar fatalement, puisqu'ils avaient vu leurs yeux
avant de
passer. Oui, alors
que là, l'industrie, on ne voit plus rien. Donc c'est vrai, maintenant, on se rend compte, vous avez raison Jacques Julliard, de la force prophétique prophétique et de la clairvoyance de Bernanos.
Et encore une fois, l'éloignement au Brésil joue beaucoup, vous savez, il faut être loin.
Je voudrais dire une chose, c'est que je crois que c'est un prophète parce que c'est un homme seul, Bernanos.
Voilà, c'est ça, c'est l'éloignement toujours.
C'est l'éloignement physique, l'éloignement moral.
Et la solitude.
Bernanos, à un moment donné, a été d'Action française. Il a été ensuite revendiqué par les chrétiens de gauche. Il peut l'être demain par n'importe qui et n'importe quelle tendance politique ou autre. En réalité, d'abord,
il a des lecteurs de toutes origines.
Ouais. Mais pour être un prophète, il faut faire vœu de pauvreté en matière de relations, de notoriété, je dirais presque d'amitié. Et moi, ce qui me frappe chaque fois dans le fait que Bernanos s'adresse à moi, c'est qu'il ne s'adresse pas à moi au nom d'une collectivité. Jamais. il me parle personnellement. C'est Georges Bernanos qui s'adresse à la Finkielkraut.
Bien, vous avez raison, sa vision de l'Église de ce point de vue-là dans ses romans est frappante. Il n'y a jamais ni pape ni évêque, le curé. Voilà. C'est-à-dire la vision la plus simple, et le curé, il est la personne du Christ sur Terre, et c'est pour ça qu'il devient un paria, dont a parlé Jean-Claude Milner, déjà donissant, auquel Gérard Depardieu a prêté son visage dans le film Sous le Soleil de Satan, le curé de campagne, le curé d'Ambricourt dans le journal Un curé de campagne, et le curé de Fenouille, qui sont des parias, des solitaires.
Je ne sais qui a dit que le curé chez Bernanos, qui est un personnage disparu, dans le monde d'aujourd'hui, le curé de Bernanos, le prêtre de Bernanos n'existe plus.
Mais en même temps, c'est Julien Gracq peut-être dans Lettrine, il y a un très beau texte sur le prêtre chez Bernanos.
Je parle dans la vie quotidienne. Et c'est une image de l'écrivain. C'est une image de l'écrivain parce que l'écrivain, c'est aussi un homme seul. C'est aussi un homme qui vous parle personnellement. Et c'est ça, quoi. Moi, j'avais envie de dire, Bernanos vous parle, comme on disait, le général de Gaulle vous parle.
Hein, alors, vous voulez dire la littérature comme sacrement?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ben, très bien. Merci beaucoup, Jacques Julliard et Sébastien Lapacque. Alors, une citation pour finir de Bernanos. Certaines contradictions de l'histoire moderne se sont éclaircies lorsque j'ai voulu tenir compte d'un fait qui d'ailleurs crève les yeux. L'homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible. Ouais, alors, Bernanos veut justement que nous ayons du cœur et pas forcément la tripe sensible. Soyons sensibles, mais pas sans verser dans la sensiblerie. Donc, le livre de Bernanos dont nous avons parlé, c'est ce recueil « Scandale de la vérité », des essais, pamphlets, articles et témoignages, une édition établie par Romain Debuet et publiée chez Lafon dans la collection Bouquin. Jacques Julliard, vous avez écrit sur Bernanos, notamment dans ce livre « L'argent, Dieu et le diable », publié chez Flammarion. Sébastien Lapacque, Georges Bernanos, encore une fois, c'est publié au Provincial et vous faites paraître ces jours-ci, Sébastien Lapacque, ce qui est un livre qui n'a rien à voir, Théorie de la bulle carrée, je crois qu'il s'agit du champagne, et c'est chez Actes Sud. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le chaos moyen-oriental. Mes invités seront Yves Aubin de la Messusière et Gilles Kepel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.